Nous poursuivons aujourd'hui notre étude sur le survol des 66 livres de la Bible. Nous en sommes à Jérémie dans notre deuxième leçon. Alors aujourd'hui, on va examiner le contenu du livre de Jérémie ainsi que ses principales leçons morales pour le chrétien. Alors on va regarder le contenu du livre de Jérémie. Dans son livre Survol de l'Ancien Testament, tome 3, le pasteur Garrett Crossley présente le contenu du livre de Jérémie de la façon suivante. Et je le cite. Le livre combine histoire, biographie et prophétie. Il n'est pas rédigé selon un ordre chronologique et son matériau n'est pas non plus regroupé en fonction du sujet traité. Il se présente donc sous la forme d'une collection de sermons rapportés de façon aléatoire. Les prophéties de Jérémie semblent disséminées au hasard, mais leur arrangement permet au prophète d'insister sur la répétition. Les thèmes qu'il aborde sont récurrents: le péché de la nation et le malheur imminent. L'auteur entrelace ses pensées, si bien qu'à force d'être lues et relues, elles finissent par laisser une impression réellement puissante et indélébile sur le lecteur. L'un des éléments que Dieu utilise dans sa communication au prophète Jérémie est celui des signes et des histoires, un peu comme des paraboles. Il communique plusieurs de ses messages sous la forme de paraboles très parlantes. C'est le cas de la ceinture abîmée, dans le chapitre 13, les versets 1 à 11, du potier et de l'argile, dans le chapitre 18, les versets 1 à 10, et du vase d'argile brisé, dans le chapitre 19, les versets 1 à 13. Par sa prédication, Jérémie fait clairement comprendre que la repentance, la soumission volontaire au Dieu vivant et le respect des termes et des obligations de l'Alliance sont le seul moyen d'éviter les effets dévastateurs du jugement divin. Le message fondamental est celui du jugement inévitable et inéluctable de Dieu sur Israël à cause de sa rébellion et de sa désobéissance. Le royaume de Juda vit des jours sombres. Jérémie a la mission peu enviable de reprendre le peuple, de l'avertir, de le supplier et de lui communiquer un message d'espérance. C'est le moyen que l'Éternel utilise pour préparer les habitants aux tribulations et aux difficultés qui les attendent. Alors, dans l'introduction, on a la vocation et la mission de Jérémie, chapitre 1, les versets 1 à 19. Jérémie est encore jeune quand Dieu l'appelle à l'office prophétique. Il prétexte aussitôt son manque de maturité et d'expérience qui le rend inapte pour cette tâche. Il apprend que la destruction de Jérusalem est certaine et qu'une nation venant du nord en sera responsable. Jérémie s'acquitte de sa mission sous les règnes de 5 rois: Josias, Joachim, qui porte aussi le nom de Éliakim, Joachaz, porte le nom aussi de Shalum, Sédécias, qui porte aussi celui de Matania, et Joachim, celui de Jéconia. Donc 5 rois. À Juda, sous le règne du roi Josias, qui va de 640 à 609 avant Jésus-Christ, on peut avoir une comparaison avec le deuxième chapitre, le deuxième livre de Chroniques, c'est-à-dire chapitre 34, verset 1, aller jusqu'au chapitre 35, verset 7. 5 ans après la vocation de Jérémie, la 18e année du règne de Josias, on redécouvre le livre de la loi dans le temple. Comme on peut le lire aussi dans 2 Rois, chapitre 22, verset 8. Le message concernant la violation de l'Alliance et la désobéissance aux paroles de cette Alliance que j'ai prescrite à vos pères le jour où je les ai fait sortir du pays d'Égypte, comme il est mentionné au chapitre 11, versets 3 et 4, semble faire directement référence à la redécouverte du livre de la loi de Moïse. Les 13 années de ministère sous le règne de Josias sont sans doute les plus heureuses pour le prophète Jérémie, même si pendant cette période de réformation religieuse, il doit constamment avertir le peuple que l'Éternel ne se contente pas d'un changement extérieur. On a cet avertissement-là dans le verset 22 du chapitre 2. Jérémie est atterré par la mort du roi Josias au combat en 609 avant Jésus-Christ, et compose vraisemblablement la complainte à l'occasion de ses funérailles. On peut lire cette complainte dans 2 Chroniques, chapitre 35, verset 25. 3 fils et un petit-fils montent successivement sur le trône laissé vacant par Josias. Mais tous ses successeurs sont des hommes impies qui réagissent de façon hostile et agressive à quiconque leur suggère de se repentir de leur mauvaise voie et de rechercher le Seigneur. Jérémie est intraitable dans sa dénonciation de ces hommes, même si, en tant que roi, ils ont droit de vie et de mort sur lui. Ensuite, on va regarder la période de Juda, sous le règne de Jéhoshaphat, en 609 avant Jésus-Christ, et on peut lire l'histoire équivalente dans 2 Rois, chapitre 23, versets 31-34. En annonçant la chute du roi, Jérémie surnomme Joachaz Shalom, mot qui signifie « rétribution ». Le prophète s'insurge contre le manque de justice au sein de la nation et contre le manque d'équité dans le commerce et dans le travail. À peu près en même temps, à Babylone, appelé également le pays des Chaldéens, le prophète Ézéchiel compare Joachaz à un jeune lion qui a appris à capturer et à dévorer des hommes. Ézéchiel prophétise aussi la capture de Joachaz, son exil, son emprisonnement et sa déportation en Égypte. Peut aller lire également le prophète Ézéchiel au chapitre 19, les versets 3 et 4. Troisième chose, on va voir Juda sous le règne du roi Joachim de 609 à 598 avant Jésus-Christ. On peut aller lire le passage aussi de 2 Rois, chapitre 23, versets 35 à 37. Lorsque le pharaon Nécho déporte Joachaz en Égypte, il met sur le trône de Juda Éliakim, qu'il renomme Joachim, son frère aîné, et en fait un vassal de l'Égypte. Pendant le règne de Joachim, se déroule la célèbre bataille de Carchemish, au cours de laquelle les Babyloniens battent les Égyptiens avant de se diriger contre Juda. Jérémie prédit l'invasion, appelle le peuple à la repentance, met en garde contre les conséquences terribles qu'entraîne le rejet de l'Éternel, annonce la destruction de Jérusalem et l'exil de 70 ans à Babylone, tel que mentionné dans le chapitre 25, les versets 1 et 11. le roi et le peuple refusent de prêter attention à cet avertissement. Le roi Nebuchadnezzar assiège victorieusement Jérusalem et, outre les ustensiles du temple, amène des captifs à Babylone, parmi lesquels se trouve Daniel, comme on peut le lire aussi dans le livre de Daniel, chapitre 1, les versets 1, 2 et 6. Bien que le message central confié à Jérémie soit celui d'un jugement terrible, il contient également un appel réitéré adressé au peuple de revenir au Dieu vivant. Mais voici l'ordre que je leur ai donné. Écoutez ma voix, et je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous ai prescrites, afin que vous soyez heureux. Et ils n'ont point écouté, ils n'ont point prêté l'oreille, ils ont suivi les conseils, les penchants de leur mauvais cœur, ils ont été en arrière et non en avant, comme on peut le lire dans le chapitre 7, versets 23 et 24. Dieu est l'idolâtrie et l'immoralité qui en découle. Sous le règne de Joachim, Jérémie dénonce les mauvais bergers et les faux prophètes qui égarent le peuple. Il prêche dans le temple et annonce les malheurs qui frapperont la nation, à moins qu'elle obéisse aux lois divines. Les sacrificateurs, les prophètes et le peuple réagissent de façon très hostile à ce message et demandent l'exécution de Jérémie. Les menaces qui pèsent sur sa vie ne sont que trop réelles, comme le montre l'histoire d'Uri, un prophète fidèle à l'Éternel, qui, prenant peur, s'enfuit en Égypte. Mais on le rattrape et le ramène devant le roi pour l'exécuter en sa présence, comme on peut le lire dans le chapitre 26, les versets 20 à 23. Sous le règne de Joachim, l'Éternel ordonne à Jérémie de noter par écrit toutes les prophéties qu'il lui a données. Le prophète les dicte à Baruch, son secrétaire. Lorsque Jérémie est chassé du temple, Baruch s'y rend pour lire au peuple toutes les prophéties que Dieu a confiées à Jérémie. En les entendant, le roi entre dans une telle colère qu'il taille le livre en pièces avec le canif du secrétaire et le jette au feu. Il ordonne en outre l'arrestation de Baruch et de Jérémie, mais comme le dit chapitre 36, verset 26, « Mais l'Éternel les cacha. » Un peu plus tard, Jérémie dicte à nouveau les prophéties en y ajoutant d'autres menaces. Baruch, son secrétaire et ami, a toutes les raisons de craindre pour sa vie, mais l'Éternel lui adresse une prophétie pour le rassurer, dans le chapitre 45, les versets 1 à 5. Jérémie annonce la mort ignominieuse du roi Joachim. Il aura la sépulture d'un âne, il sera traîné et jeté hors des portes de Jérusalem. Chapitre 22, verset 19. Quatrième chose qu'on étudie dans le livre, c'est Juda sous le règne de Joachim, de 598 à 597 avant Jésus-Christ. Joachim, qu'on appelle aussi Jéconias ou Jéconia, ne règne que 3 mois avant d'être déporté captif à Babylone, comme Jérémie l'avait prédit. Il y passe 37 ans en prison. Lorsqu'Évil Mérodac monte sur le trône de Babylone, il lui rend sa liberté et le traite avec bonté, comme on peut le lire dans le chapitre 52, les versets 31-34. Parmi les aristocrates, les sacrificateurs, les serviteurs et les chefs militaires déportés à Babylone en même temps que le roi Joachim, figure le jeune Ézéchiel, qui, quelques années plus tard, sera appelé à l'office prophétique parmi les exilés. Cinquième chose qu'on va étudier dans le livre, c'est Judas, sous le règne de Sédécias, de 597 à 586 avant Jésus-Christ. Après avoir déporté Joachim à Babylone, Nabuchodonosor place Matania, qu'il renomme Sédécias, sur le trône de Juda, et conclut une alliance avec lui. Mais il ne semble pas que Sédécias ait l'intention de respecter les clauses de ce contrat. En effet, peu de temps après, il envoie des ambassadeurs à Babylone. À en juger par la lettre que Jérémie confie à ces mêmes messagers pour exhorter les captifs à rester soumis au roi de Babylone, Sédécias avait certainement l'intention de les inciter à la révolte. La quatrième année de son règne, Sédécias se rend en personne à Babylone, probablement pour témoigner de sa loyauté au roi de Babylone et pour se rendre compte de la situation des exilés. Cinq ans plus tard, sans doute en accord avec les rois d'Édom, de Moab, d'Ammon, de Tyr et de Sidon, Sédécias se révolta contre le roi de Babylone. Cette rébellion est considérée comme un grave péché contre Dieu parce que Nebuchadnezzar avait fait jurer le roi par le nom de Dieu. Alors, cela raconté aussi dans 2 Chroniques, chapitre 36, verset 13, et aussi Ézéchiel, chapitre 17, verset 13 à 21. Cette même année, le prophète Jérémie doit faire face à un sérieux problème de la part de Anania, un faux prophète. Celui-ci contredit publiquement Jérémie et annonce que Juda sera émancipé du joug babylonien, que les ustensiles du temple emportés pour Nebuchadnezzar seront rapportés à Jérusalem. Jérémie dénonce les mensonges de Anania et annonce en privé la mort du faux prophète durant l'année en cours comme jugement de Dieu. Une fois de plus, Nebuchadnezzar marche sur Juda et assiège Jérusalem. Ce même jour, l'Éternel révèle au prophète Ézéchiel le début du siège de la ville, comme on peut le lire dans Ézéchiel chapitre 24, versets 1 et 2. Il semble que le début de l'invasion ait incité le roi Sédécias et ses nobles à réfléchir à l'alliance conclue entre le Dieu vivant et son peuple Israël. En particulier, la clause relative à l'esclavage, qui avait été dite dans Exode 21, verset 2. « Si tu achètes un esclave hébreu, il servira 6 années, mais la 7e, il sortira libre, sans rien payer. » Le peuple obéit à cette loi et libère ses esclaves hébreux. Mais peu après, les Israélites changent d'avis et reprennent les esclaves et les servantes qu'ils ont affranchis. L'Éternel s'irrite devant cette preuve supplémentaire d'irrespect et de désobéissance et charge Jérémie de faire connaître son vif mécontentement. Pendant un court répit, alors que le roi de Babylone porte son attention sur les Égyptiens qui s'approchent, Sédécias envoie des hommes auprès de Jérémie pour qu'il consulte l'Éternel quant à l'issue de la guerre. Le prophète informe les ambassadeurs du roi que Dieu combat contre Juda. Il recommande aux habitants de se rendre aux Chaldéens et invite Sédécias à capituler et à implorer la clémence du roi de Babylone. Mais personne ne prend garde à la parole de l'Éternel. Jérémie exhorte le peuple à ne pas résister aux Babyloniens, si bien que quelques nobles l'accusent de trahison contre le roi, l'armée et la nation. Le prophète est alors jeté dans la citerne boueuse qui se trouve dans la cour de la prison. Il y reste dans des conditions épouvantables, jusqu'au jour où Ebed-Mélec, l'Éthiopien, intervient et plaide en sa faveur auprès du roi, implorant sa clémence à l'égard du prophète. Jérémie est alors extrait de la citerne et mis en prison. Bien que chargé de délivrer un message de jugement sévère contre Juda, Jérémie l'a sorti de remarquables paroles d'espérance. Les merveilleuses paroles du chapitre 30 et 31 appartiennent à cette époque des souffrances du prophète. On lit par exemple chapitre 30, verset 18 et 22. « Voici, je ramène les captifs des tentes de Jacob. J'ai compassion de ses demeures. Vous serez mon peuple. » Et dans le chapitre 31, verset 3, il dit « Je t'aime de l'amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. » La lettre de Jérémie aux exilés à Babylone contient également un précieux encouragement. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Chapitre 29, versets 10 et 11. À peine quelques mois avant la prise de Jérusalem, Dieu demande à Jérémie d'acheter un champ de son cousin, Hanaméel. Il en paie le prix et les deux hommes signent un acte de vente devant témoins. Cet acte symbolique est destiné à montrer qu'on achètera des maisons, des champs et des vignes dans ce pays. Chapitre 32, verset 15. La ville de Jérusalem résiste pendant 18 mois, jusqu'à ce qu'une brèche soit ouverte dans le mur d'enceinte. Chapitre 39, versets 1 et 2. Sédécias tente alors de s'échapper, mais il est rattrapé dans les plaines de Jéricho, et les Babyloniens lui crèvent les yeux. Deux prophéties apparemment contradictoires se réalisent. Sédécias, roi de Juda, n'échappera pas aux Chaldéens, mais il sera livré entre les mains du roi de Babylone. Il lui parlera face à face, et ses yeux verront ses yeux. Chapitre 32, verset 4. Et l'autre, dans Ézéchiel 12, verset 13, « J'étendrai mon ret sur lui, et il sera pris dans mon filet. Je l'amènerai à Babylone, dans le pays des Chaldéens. » Mais il ne le verra pas et il y mourra. Les Babyloniens pillent Jérusalem, détruisent le temple, le palais royal, toutes les maisons de quelque importance et les murs de la ville. Jérémie est libéré de sa prison et a le choix entre aller à Babylone avec le commandement de l'armée victorieuse pour y vivre en paix, rester en Juda, administré par un nouveau gouverneur, ou aller où bon lui semble. Le prophète décide de rester en Juda. Tous les chefs civils et religieux sont déportés à Babylone, où ils sont exécutés. Le reste des habitants de Jérusalem est emmené en captivité à Babylone, à l'exception des plus pauvres du pays, que le représentant du roi de Babylone laisse comme vigneron et laboureur, sous l'autorité du gouverneur Guédalia. au cours de ses trois invasions. Nébuchadnezzar emporte 4600 captifs, comme on le lit dans le chapitre 52, verset 30. Les habitants qui restent au pays se querellent et, après l'assassinat du gouverneur Guédalia, fuient en Égypte contre l'avis de l'Éternel. Jérémie est contraint d'accompagner les fuyards et continue d'exercer son ministère parmi les Juifs installés en Égypte. Le peuple de Juda a rompu l'alliance avec le Dieu vivant. Même les événements dévastateurs des années passées n'ont pas réussi à lui faire entendre raison. En Égypte, les Israélites oublient l'Éternel et se tournent vers les idoles locales. Septièmement, on a les prophéties contre les nations étrangères qui vont de 46, verset 1, à 51, verset 64. Les nations qui se sont montrées hostiles envers Israël et Juda sont censurées par Dieu. Jérémie prophétise contre l'Égypte, les Philistins, Moab, Ammon, Édom et Damas, c'est-à-dire la Syrie. Kédar, qui est une partie de l'Arabie, Élam et Babylone. De ces neuf nations, quatre seulement, à savoir l'Égypte, Moab, Ammon et Élam, reçoivent des promesses de restauration de leur pays. Deuxième point qu'on va regarder aujourd'hui, on va regarder maintenant les leçons morales pour les chrétiens qu'on peut trouver dans le livre de Jérémie. Très certainement celui de l'amour incroyable de Dieu. À première vue, le choix de Jérémie comme prophète pour annoncer le jugement de Dieu ne semble pas judicieux. Un personnage plus solide et robuste, de la trempe d'Élie par exemple, aurait apparemment mieux convenu. Jérémie paraît comme un homme très sensible au cœur tendre, qui s'attriste de devoir délivrer de tels messages. Il dit par exemple au chapitre 9, verset 1, « Oh, si ma tête était remplie d'eau, si mes yeux étaient une source de larmes, je pleurerais jour et nuit les morts de la fille de mon peuple. » Et aussi au chapitre 13, et versets 16 et 17, « Rendez gloire à l'Éternel, votre Dieu, avant qu'il fasse venir les ténèbres, avant que vos pieds se heurtent contre les montagnes de la nuit. Vous attendez la lumière, et il la changera en ombre de la mort. Il la réduira en obscurité profonde. Si vous n'écoutez pas, je pleurerai en secret à cause de votre orgueil. Mes yeux fondront en larmes, parce que le troupeau de l'Éternel sera amené captif. » Jérémie est le prophète au cœur brisé. Mais qui aurait pu mieux convenir comme ambassadeur de l'Éternel, qui lui-même fait preuve d'une telle tendresse et d'une telle sensibilité? 7 siècles après Jérémie, quelqu'un d'autre sera étreint par la même douleur poignante et la même tristesse devant la capitale. Il s'agit de Jésus lui-même, quand il dit dans Matthieu 23, verset 37, « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. » Bien que chargé de délivrer de nombreuses paroles d'avertissement, de reproches, de jugements et de châtiments imminents, le prophète communique également quelques remarquables messages de grâce de la part de Dieu, comme on le lit par exemple dans le chapitre 29. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » également le chapitre 31, verset 3, lorsqu'il dit « Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. » Malgré l'infidélité du peuple, l'Éternel lui témoigne un amour et une compassion extraordinaires. Deuxième chose qu'on apprend comme chrétien dans le livre de Jérémie, c'est celui de l'annonce du jugement divin. Malgré l'évidente tendresse de son cœur et de son amour manifeste pour les pécheurs, Jérémie délivre fidèlement le message divin du jugement. Sans équivoque ni compromission, il fait connaître la colère de Dieu contre un peuple égaré et rebelle. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, ma colère et ma fureur se répandent sur ce lieu, sur les hommes et sur les bêtes, sur les arbres des champs et sur les fruits de la terre. Elle brûlera et elle ne s'éteindra point. Car les enfants de Juda ont fait ce qui est mal à mes yeux, dit l'Éternel. Ils ont placé leurs abominations dans la maison sur laquelle mon nom est invoqué, afin de la souiller. Les cadavres de ce peuple seront la pâture des oiseaux du ciel et des bêtes de la terre, et il n'y aura personne pour les troubler. Je ferai cesser dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem, les cris de réjouissance et les cris d'allégresse, les chants du fiancé et les chants de la fiancée, car le pays sera un désert. L'Écriture fait plus souvent référence à la colère, à la fureur et au courroux de Dieu qu'à son amour et à sa tendresse. Psaume 90, verset 11 dit « Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux selon la crainte qui t'est due? » Le Seigneur Jésus-Christ est celui qui parle le plus des terreurs de l'enfer et du châtiment éternel. Les apôtres ne traitent pas ce sujet avec la même mesure, et c'est bien compréhensible. Nul autre que Dieu n'a le droit ni le pouvoir de condamner une âme à la perdition éternelle à cause de son péché. Nul autre que Dieu n'a le droit ni le pouvoir d'exécuter la sentence. Nul autre que Dieu n'a donc le droit ni le pouvoir de définir les limites et les conséquences de cette sentence. C'est pourquoi la plupart des descriptions et des images terrifiantes des souffrances dans lesquelles sont plongés les perdus se trouvent dans les discours de notre Seigneur et Sauveur. L'amour pour les perdus annonce l'annonce du jugement et de la justice de Dieu. Sans une prise de conscience de la sainteté et de la justice de Dieu, sans la révélation du jugement divin, qui frappera les pécheurs impénitents, les pécheurs ne se tourneraient pas vers le Seigneur, ni n'invoqueraient son nom pour être sauvés. Romains chapitre 10, versets 13 et 14. Le message de l'Évangile n'est pas celui de la satisfaction du besoin de l'homme, mais celui de la satisfaction de la sainte justice de Dieu. La conviction de péché, dans une prise de conscience de la sainteté et de la justice de Dieu, est un préalable essentiel à la confession et à la conversion. Psaume 32, versets 3 à 5. Le caractère abject de notre péché a nécessité le sacrifice du Dieu homme, saint. Le jugement que Dieu porte sur notre péché a exigé ses souffrances atroces et sa mort par crucifixion. On dit dans 1 Pierre 2, 24, « Il a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. » Nulle part, la colère de Dieu contre le péché ne se voit avec autant de clarté que sur le calvaire, où le Père livre son Fils unique, celui qu'il aime. Les terreurs de l'enfer sont presque perceptibles dans l'angoisse qui étreint Christ sur la croix et dans le cri effroyable qu'il pousse lorsqu'il dit « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» comme on peut le lire dans le chapitre 27, verset 46 du livre de Matthieu. Christ a goûté la mort et l'enfer pour son peuple. Il a subi les souffrances atroces pour qu'aucun des siens, de ceux pour lesquels il mourut, n'ait à subir lui-même les peines de l'enfer. Les affres de l'enfer que connaîtront l'impénitent et l'incroyant seront aussi durables que les délices et le bonheur céleste auxquels goûteront ceux qui se repentent et croient. Paul révèle que le jugement de Dieu est un puissant stimulant de sa prédication, lorsqu'il dit dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 11, « Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. » À Athènes, l'apôtre donne un bel exemple de sa fidélité dans l'annonce du jugement de Dieu, dans Actes 17, verset 30 à 31. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine, en le ressuscitant des morts. Troisième leçon, celui de la condition naturelle du cœur humain. Quel contraste entre la révélation du cœur de Dieu et celle du cœur de l'homme. On lit dans Jérémie 17, versets 9 et 10, « Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur. Je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses œuvres, selon le fruit de ses œuvres. » Le Seigneur Jésus a dénoncé la corruption du cœur humain. Dans Marc 7, verset 21-23, le Seigneur Jésus a dit « C'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les débauches, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans qui souille l'homme. » Dans son état naturel, non seulement le cœur produit ses maux, mais il est incapable de juger sainement. Si une certaine notion du bien et du mal subsiste à divers degrés chez tout être humain, les effets du péché l'ont déformé et corrompu. La doctrine biblique de la dépravation totale ne signifie pas que tout être humain est aussi dépravé qu'il est possible de l'être, mais que le péché a affecté tous les aspects de la personne humaine, ses pensées, ses sentiments et sa volonté. Dans sa condition naturelle, personne n'est juste, comme il est mentionné dans le psaume 14, versets 1 à 3, et comme il est également mentionné dans Romains, chapitre 3, verset 23. Ni personne ne comprend la vérité spirituelle, personne ne peut être agréable à Dieu, ni ne peut entrer dans son royaume. Le besoin de changement radical de la condition humaine s'impose. Dieu seul peut opérer ce miracle. Dans la prophétie d'Ézéchiel, il promet un cœur nouveau et un esprit nouveau. Ézéchiel, chapitre 36, verset 26. Quatrième leçon, c'est la leçon d'un appel au rétrograde. Malgré les réformes introduites par le roi Josias, la nation poursuivit sur la pente du déclin spirituel et moral. L'idolâtrie et l'immoralité du peuple surpassaient celles du royaume d'Israël avant son exil en Israël, en Assyrie. Dans les prophéties de Jérémie, certains thèmes reviennent fréquemment. C'est le cas des verbes « rejeter », « repousser », « abandonner », « revenir » et aussi de l'adjectif « infidèle ». Les chapitres correspondants sont remplis de mots qui s'adressent aux rétrogrades ou aux infidèles. Judas a abandonné l'Éternel et Jérémie est chargé d'avertir ses habitants qu'un jugement sur eux est imminent, mais qu'il est encore temps de se repentir et d'échapper ainsi à la condamnation. Au chapitre 3, versets 12 et 13, il dit « Reviens, infidèle Israël, dit l'Éternel, je ne jetterai pas sur vous un regard sévère, car je suis miséricordieux, dit l'Éternel. Je ne garde pas ma colère à toujours. Reconnais seulement ton iniquité. Reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel, ton Dieu, que tu as dirigé, ça et là, tes pas vers les dieux étrangers, sous tout arbre vert, et que tu n'as pas écouté ma voix, dit l'Éternel. » Les événements qui se déroulent dans la nation, dans la maison du potier, illustrent l'importance de revenir à Dieu sans tarder. Le potier peut reprendre et refaçonner un vase raté, aussi longtemps que l'argile est malléable. Mais une fois qu'elle a durci, le vase n'est plus bon qu'à être brisé. L'occasion offerte aux pécheurs de se repentir ne dure pas indéfiniment. Une merveilleuse promesse, qui rappelle celle d'Ésaïe 55, versets 6 et 7, est adressée à tous ceux qui entendent ou lisent. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Chapitre 29, versets 13 et 4. Cinquième leçon, c'est celle d'être seul. Pendant ces années sombres, Jérémie a dû souvent souffrir d'un terrible sentiment d'isolement et de solitude. Personne ne semblait vouloir prendre à cœur ses messages venus de Dieu. Sa famille, ses amis, ses voisins, le peuple et ses chefs, tous rejetèrent sa prédication et s'opposèrent à lui. Même les autorités religieuses le méprisèrent. Prophètes et sacrificateurs se dressèrent contre lui et cherchèrent à le faire mourir. Jérémie souffrit comme le grand prophète, au sujet desquels il est écrit dans Ésaïe 53 qu'il a été méprisé et abandonné des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance. Combien la fidélité et la force morale de Jérémie nous interpellent aujourd'hui. Nous vivons au milieu de nations qui semblent déterminées à tout prix à éradiquer toute loi d'inspiration biblique. Autour de nous, la religion officielle nie les doctrines fondamentales de la foi chrétienne authentique, tolère et encourage même activement et officiellement l'immoralité et les initiatives interreligieuses. Le mysticisme et l'existentialisme sont fortement répandus, même dans les églises évangéliques. Il n'est donc pas surprenant que le sentiment de solitude et la pression exercée pour que nous nous conformions au monde soient presque insupportables. Les responsables religieux de notre temps ne rougissent plus. Une dernière application pour terminer la leçon. Le livre de Jérémie a beaucoup à apprendre aux chrétiens modernes. Il nous rappelle avec grande puissance le grand amour de Dieu envers son peuple, sa sévérité et son jugement envers les péchés de son peuple, sa grande miséricorde, notre profonde corruption, notre obligation de tenir compte de ses avertissements et la possibilité de demeurer fidèle, même au milieu de grandes apostasies, d'idolâtrie, de rébellion et d'immoralité. Que le Seigneur nous donne un plus grand amour des livres de l'Ancien Testament. Ils nous ont été donnés pour notre instruction. Amen.